Oui, alors ça me fait penser, je fais travailler une magnifique chanteuse qui en est à son 4e album en ce moment. Le premier jour où elle est venue me voir, elle m'a dit « Voilà, moi j'aime pas ma voix ».
Aïe.
Et en fait, souvent, quand quelqu'un n'aime pas sa voix, ça raconte autre chose. Par exemple, dans son cas, elle avait des tensions dans la nuque qui faisaient que sa voix ne sonnait pas comme elle aurait dû sonner. Puis intuitivement, elle sentait ça. Donc elle sentait qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. Alors dans ce sens-là, bah, quand sa nuque s'est ouverte et sa voix s'est ouverte, bah, elle s'est mise à aimer sa voix. Et ça, c'était vraiment hyper joli. D'autres problématiques de personnes, on a des fois dans ce qu'on appelle, on pourrait dire, la vocalité psychosociale, c'est-à-dire dans le rapport qu'on a avec les autres, on prend certains rôles au niveau de nos voix, puis on sent que ça ne nous correspond pas. Par exemple, j'ai eu un cas d'un chef d'entreprise qui, en fait, avait la voix un peu comme ça. Mais en fait, en parlant avec lui, et il n'aimait pas sa voix, on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui avait un papa très autoritaire et qui avait toujours eu peur de son père. Mais moi, je ne suis pas psy, hein, donc on a travaillé son corps, on a travaillé sa voix, puis tout à coup, il a dit 1, 2, 3. Puis il m'a dit « Oh mon Dieu !» Parce qu'il avait tout à coup sa voix qui était là. Puis je lui dis mais alors ça vous fait quoi de parler comme ça ?» Et là, il a tout de suite répondu « Mais j'aurais jamais pu parler comme ça devant mon père. » Et donc, on s'est rendu compte là qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était mis en place où il n'avait pas le droit de ça. Puis après, on s'est rendu compte que quand il était face à ses employés, il n'était pas face à son papa et qu'il pouvait choisir de parler tout doucement à son papa s'il voulait faire comme ça, mais il pouvait choisir aussi à d'autres moments de faire autrement.
Avec votre travail, tout le monde peut trouver sa voix, celle qui permet de s'adresser à ses employés, à son chef, à des auditeurs, à un public.
Alors, je pense que oui. Après, le tout petit caveat, c'est s'il y a tout à coup vraiment des lésions. Si on a quelqu'un qui aurait des grosses lésions en termes, s'il y a justement, ou même des problèmes vocaux, par exemple, comme de l'œdème, des prénodules ou des nodules, ou un granulome, etc., ça peut prendre déjà du temps pour que le corps s'autoguérisse, même quand on donne le bon contexte. Et puis, dans certains cas, il faut opérer, etc. Puis là, c'est pas du tout de mon ressort, c'est les médecins et tout ça. Mis à part ça, absolument, je pense que chacun peut trouver sa voie. Et avec le deuxième petit caveat, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. J'ai eu, par exemple, une fois une situation. Une personne qui avait une dysphonie spasmodique, ça veut dire c'est les cordes vocales qui ferment très fort d'un coup. Ça a fait des choses un peu comme ça. Et en fait, quand elle a refait, justement, j'emploie beaucoup les nombres, hein, parce que les nombres de 1 à 10, c'est facile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, quand elle a fait comme ça, elle a dit mais dans ma famille, ils ne vont plus jamais m'écouter. Parce que moi, ils m'entendent que quand j'ai les spasmes. Donc pour elle, entre guillemets, avoir une voix saine, c'était prendre le risque de plus être entendu. Puis là, j'ai dit, oulala, alors là, peut-être, ça peut être intéressant justement d'en parler à quelqu'un. Enfin, je fais aussi une limite assez claire. Hein. Moi, je ne suis pas thérapeute, je suis éducateur. Donc, je vais aider la personne à faire le geste vocal qui va fonctionner. Et puis alors après, une fois qu'elle le fait, ce que ça lui fait...
Ce que ça déclenche.
Voilà, ça, elle peut aussi en parler. J'ai des psychothérapeutes avec qui je collabore volontiers. Et je trouve super de bien cadrer ce qui est de mon ressort et ce qui ne l'est pas.